À l'été 1988, dans la ville tranquille de Jackson, une femme sans histoire disparaît de chez elle du jour au lendemain. Mais Madame Irene possède en réalité une des plus grosses fortunes du Mississippi. Quand le FBI et la police locale reçoivent une mystérieuse demande de rançon, il doit déchiffrer le message codé afin de retrouver le ravisseur et sa victime avant qu'il ne soit trop tard. Vous écoutez les dossiers du FBI. Une mystérieuse lettre. Première partie.
« 26 juillet 1988, 6 heures du matin. Une autre journée torride s'annonçait pour la ville de Jackson au Mississippi, au sud des États-Unis. Comme tous les jours depuis 48 ans, Annie Laurie Aaron prit un café avec son mari Robert avant qu'il parte travailler. Les Aaron avaient été parmi les premiers à investir dans l'industrie du pétrole, ce qui en avait fait l'un des couples les plus riches du Mississippi avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Ce jour-là, Annie Laurie Aaron devait recevoir les membres de son club de bridge à la maison. Elle vivait là avec son mari depuis les tout débuts. Ils y avaient élevé leurs deux enfants. À 15h30, après la partie de bridge, les amis de Madame Aaron prirent congé. Après avoir terminé de tout ranger, sa domestique demanda une dernière fois à Madame Aaron si elle désirait quelque chose d'autre avant qu'elle ne parte. La dame de 73 ans lui dit que tout était très bien comme ça et la laissa partir. Annie Laurie Aaron se proposait de passer le reste de l'après-midi à lire en attendant le retour de son mari. Elle n'attendait personne, mais peut-être une de ses amies du club ou la domestique avait-elle oublié quelque chose. Son mari ne devait rentrer qu'une heure plus tard.
Hi, how are you, ma'am?
I'm fine, thank you. How are you?
Good. I got to see your husband. I have a letter.
I'm back to see him.
No, I'm not waiting at all. Let me just come on in here and wait for you.
Annie Laurie Aaron était seule dans la maison. Vers 16h30, Robert Aaron rentra enfin chez lui. Il constata que sa femme n'était pas là, il se dit qu'elle était sans doute partie avec ses amis ou leur fille. Mais à 17h30, il trouva étrange qu'elle ne l'ait pas appelé ni laissé un mot. Il n'y avait personne à la maison. Inquiet, Robert appela les membres de la famille et des amis. Personne n'avait vu Annie Laurie depuis la partie de bridge. Le gendre de Robert, qui demeurait à proximité, s'empressa de venir le rejoindre. Il lui dit que sa femme et lui n'avaient eu aucune nouvelle d'Annie Laurie de toute la journée. Robert Aaron constata qu'Annie Laurie était sortie sans son sac à main, ce qui était contraire à ses habitudes. Pourquoi donc son sac à main était-il par terre, avec ses chaussures à côté de son fauteuil de lecture? Son journal et ses lunettes étaient juste à côté. Robert était inquiet, d'autant plus que le médicament de sa femme, atteinte d'une maladie intestinale, était toujours dans la salle de bain. Elle devrait le prendre sans tarder, sans quoi elle serait incapable d'absorber les aliments. Les deux hommes fouillèrent la maison à la recherche d'un indice sur l'endroit où elle avait pu aller. Un bout de papier près de la porte d'entrée principale retint alors l'attention du gendre. Il s'agissait d'une demande de rançon. Annie Laurie Aaron avait été enlevée. Sur la lettre, on demandait à Robert Aaron de remettre de l'argent à 12 hommes différents au cours des 10 prochains jours, mais on ne mentionnait toutefois pas le montant d'argent à remettre, ni à quel endroit devait se faire le paiement. Comme on lui ordonnait de ne pas appeler la police, Aaron attendit l'appel du ravisseur, mais le téléphone resta silencieux. À la tombée de la nuit, malgré les menaces du ravisseur, il décida d'appeler le service de police de Jackson. Les policiers prirent toutes les précautions possibles avec la demande de rançon pour ne pas détruire les éventuelles empreintes digitales. Ils fouillèrent ensuite la maison à la recherche d'autres indices et découvrirent ce qui ressemblait à du sang sur le cadre de la porte d'entrée. Des analyses de laboratoire révéleraient par la suite qu'il s'agissait de sang du même groupe sanguin que celui de Madame Aaron. L'enlèvement est un crime qui doit être résolu rapidement, sinon les chances de retrouver la victime en vie sont minces. Ce soir-là, la police de Jackson entra en contact avec l'agent spécial Patrick McGlennon du bureau du FBI de Jackson afin d'obtenir le plus vite possible les ressources du gouvernement fédéral.
En vertu de la loi fédérale sur les enlèvements, tout kidnapping d'un individu aux États-Unis relève de la juridiction du FBI. Dans ce cas-ci, il s'agissait vraisemblablement d'un enlèvement, car il y avait une demande de rançon, et il était fort possible que son auteur quitte le Mississippi. Autant de raisons qui justifiaient la présence du FBI.
Le lendemain matin, à l'aube, les agents du FBI et des techniciens en cueillette d'indices arrivèrent à la résidence des Aaron. Le détective de Jackson transmit à l'agent chargé de l'affaire toutes les informations pertinentes dont il disposait sur ce cas. Le FBI mit en place un poste de commandement dans la maison et mit la ligne des Aaron sous écoute pour être prêt à retracer tout appel de demande de rançon. À l'évidence, Robert Aaron était la véritable cible du ravisseur de sa femme. Il n'avait toujours reçu aucun appel. Mais la lettre mentionnait toutefois que les 12 hommes étaient tous reliés à la même entreprise de photographie. Robert Aaron déclara qu'il avait déjà été président du conseil d'administration de cette entreprise. Certains des franchisés de cette société avaient été poursuivis dans l'espoir de récupérer des pertes, mais il ignorait lesquelles. Il était peu probable que les 12 hommes nommés aient enlevé sa femme, mais peut-être l'un d'entre eux cherchait-il à se venger en l'attaquant. Les techniciens recueillirent des échantillons de tous les bloc-notes et papiers à lettres dans la maison des Aaron. Ils avaient l'intention de les comparer avec la lettre afin de voir si elle avait été rédigée sur du papier provenant de la maison. On obtiendrait les résultats de ces analyses dans quelques jours. Les enquêteurs fouillèrent ensuite à l'extérieur de la maison, à la recherche de cheveux, de traces de sang ou de vêtements, bref, de tout indice sur l'identité du ravisseur. Mais leurs fouilles furent vaines. Les voisins du couple et les domestiques n'avaient rien aperçu d'anormal l'après-midi précédent et personne n'avait vu Madame Aaron quitter les lieux non plus. Le lendemain, les agents continuèrent à ratisser le quartier. Ils interrogèrent entre autres un médecin qui vivait au bout de la rue. Ce dernier avait vu quelque chose dans le quartier qui pouvait fort bien être relié à l'enlèvement. Deux semaines plus tôt, en allant faire quelques courses, il avait croisé une mini-fourgonnette blanche garée près de chez lui. De l'endroit où elle était stationnée, les passagers avaient une excellente vue de la maison des Aaron. Sur le coup, le médecin n'y avait guère porté attention, mais il avait été surpris de la voir au même endroit à son retour quelques heures plus tard. Il se dit que le conducteur avait peut-être eu un malaise et il alla lui offrir de l'aide. Le conducteur lui demanda alors si une loi lui interdisait de se garer dans le quartier. Le médecin avait trouvé la réaction du conducteur si bizarre qu'il n'avait pas pu oublier l'incident. Il ajouta que le véhicule était parti quelques minutes plus tard. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches dans le quartier et trouvèrent une femme qui avait aperçu la mini-fourgonnette blanche garée dans la rue 3 mois plus tôt.
Une autre voisine avait également vu une mini-fourgonnette dont la description correspondait à celle du premier témoin. Elle était garée presque devant la propriété des Heron au cours des premiers jours d'avril 1988. Elle avait trouvé la situation assez louche pour en noter le numéro de plaque d'immatriculation.
Si les enquêteurs parvenaient à trouver le propriétaire du véhicule, ils trouveraient peut-être Madame Aaron. Malheureusement, une vérification du numéro de la plaque leur révéla qu'elle provenait d'un véhicule volé à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. C'était une autre impasse. Après 36 heures d'enquête et aucun appel du ravisseur, les agents espéraient maintenant obtenir une piste fraîche du laboratoire qui avait analysé la lettre. Les experts du FBI commencèrent par établir que le papier du mot rédigé à la machine ne provenait pas de la maison des Aaron. Ils comparèrent ensuite les caractères à ceux de toute machine à écrire fabriquée au cours du siècle.
Ce service du laboratoire a pu déterminer que la lettre de rançon avait été dactylographiée à l'aide d'une machine à écrire de marque Royal, fabriquée entre 1912 et 1927.
Agent spécial Patrick McGlennon.
Malheureusement, les techniciens ont été incapables de déterminer le fabricant de ce papier et n'ont trouvé aucun autre indice.
Il n'y avait pas d'empreinte digitale. L'examen de la lettre permit seulement de trouver ce qui semblait être une tache de sang, mais elle était trop petite pour être analysée. Même si l'examen matériel de la lettre n'avait rien donné, peut-être que son contenu pourrait générer une piste. On y demandait à Robert Aaron de payer les 12 hommes de l'entreprise de photographie. Le ravisseur pouvait-il être l'un d'eux? Les agents apprirent alors que l'entreprise avait saisi les biens de chacun de ces 12 hommes, tous d'anciens franchisés qui lui devaient beaucoup d'argent. L'un des dirigeants de l'entreprise fournit au FBI les dossiers et photos de ces hommes. L'un d'eux était mort depuis. Les autres vivaient un peu partout au pays. Au bureau du FBI de Jackson, les agents se partagèrent les dossiers et les photos pour les examiner un à un. Ils envoyèrent des demandes d'informations au bureau du FBI des villes où vivaient ces hommes. Les agents s'aperçurent bientôt que nombre d'entre eux éprouvaient de grosses difficultés financières. Ils tentèrent de déterminer si l'un d'eux ne s'était pas trouvé dans le quartier des Aaron au moment où on avait aperçu la mini-fourgonnette blanche et lors de l'enlèvement. On se mit également à garder à l'œil les anciens franchisés. Peut-être l'un d'eux mènerait-il les agents à la victime de 73 ans. L'enquête en était maintenant à sa troisième journée. Il ne restait plus que 7 jours selon la lettre de rançon. De plus, on n'avait toujours pas reçu d'instructions précises de la part du ravisseur pour retrouver Annie Laurie Aaron en vie.
Nous avons cherché à savoir s'ils faisaient des trajets, même courts, à partir de leur maison ou de leur bureau. Peut-être gardait-il Mme Aaron dans un endroit isolé où il devait aller lui porter de la nourriture, de l'eau ou quelque chose d'autre. Peut-être ne voulait-il pas être trop éloigné d'elle.
Malgré les efforts de plusieurs dizaines d'agents à travers les États-Unis, on ne trouva aucun indice sur l'endroit où se trouvait Annie Laurie Aaron. Les agents ne pouvaient se résoudre à contacter directement les 11 hommes. Ils préféraient agir secrètement. De plus, il fallait envisager que le ravisseur fût quelqu'un d'autre que les hommes mentionnés dans la lettre. Des agents entrèrent en contact avec le service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. On y forme spécialement des psychologues pour dresser le profil comportemental de criminels. L'un de ces experts examina tout particulièrement la lettre de rançon à la recherche des traits caractéristiques du ravisseur. Il communiqua les résultats de son analyse aux agents de Jackson qui travaillaient sur l'affaire Aaron. Lors de l'appel conférence, le psychologue déclara que le ravisseur était, selon lui, sans doute l'un des 11 hommes sous surveillance. Comme tous ces hommes étaient au moins diplômés de collège, il soupçonnait celui qui l'avait rédigé d'avoir intentionnellement fait des fautes d'orthographe et utilisé une vieille machine à écrire pour lancer les enquêteurs sur une fausse piste. Toujours selon l'expert, cet enlèvement n'était rien d'autre qu'un acte de vengeance contre Robert Aaron par un paranoïaque qui était sûrement prêt à tuer.
Le personnel du service des sciences comportementales croyait qu'un seul de ces hommes était impliqué.
Agent spécial Patrick McGlennon.
Et que c'était sans doute un individu dans la quarantaine qui travaillait seul. Et s'il ne travaillait pas seul, l'autre personne était son subalterne.
Le psychologue conclut son analyse en déclarant qu'à 7 heures, il n'y avait pas plus de 50% de chances qu'Annie Laurie Aaron soit encore en vie. Un autre détail avait retenu son attention, une expression qui s'intégrait mal au reste de la lettre et qui pouvait donner une indication de la profession qu'exerçait le ravisseur.
Dans la lettre, on pouvait lire « Versez-leur tous les dommages-intérêts qui leur sont dus, et si l'un d'eux est mort, payez leurs héritiers ». L'expression « dommages-intérêts » est un terme légal. C'était d'autant plus intriguant que l'un des hommes mentionnés dans la lettre était un avocat.
On demanda à l'agent spécial Tom Montgomery, du bureau de Jacksonville en Floride, de faire enquête sur l'avocat dont le nom figurait dans la lettre. Cet homme s'appelait N. Alfred Wynne.
Quand on a obtenu le nom de Hen Alfred Wynne, nous avons examiné les documents publics le concernant. Nous avons également appelé le service de police de St. Petersburg, le bureau du shérif de Pinellas, et découvert qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Nous avons fouillé dans notre base de données informatisée et avons établi qu'il était avocat à St. Petersburg et qu'il vivait au-dessus de son cabinet.
Un agent se rendit pour interroger Alfred Wynne. Celui-ci déclara qu'il n'était pas impliqué dans l'enlèvement. Il lui dit ensuite où il se trouvait le 26 juillet, soit le jour de la disparition de Madame Aaron. Il était dans un bar en compagnie d'une prostituée. Il ajouta qu'au cours de la soirée, il avait appelé son secrétaire au bureau. Il lui avait demandé de le rencontrer au bar et lui prêter une centaine de dollars pour qu'il puisse payer la prostituée qu'il comptait ramener avec lui à la maison. L'employé lui avait promis d'aller le rejoindre sur le champ. Wynne ajouta que la prostituée et lui étaient sortis pour passer le temps. Ils attendirent l'arrivée du secrétaire avec l'argent. Wynne se trouvait dans sa voiture avec la prostituée lorsque l'employé finit par arriver. Wynne prit l'argent et partit avec la femme. Il ne se rappelait pas grand-chose du reste de la soirée. Il ne se souvenait plus ni du nom du bar, ni du nom de la prostituée. Le lendemain, les agents vérifièrent son alibi lors d'une rencontre avec son employé pendant que l'avocat était absent du bureau. Ce dernier corrobora les déclarations de son patron et ajouta qu'il ignorait lui aussi le nom du bar puisqu'il n'y était jamais allé auparavant. Les agents soupçonnaient les deux hommes de mentir.
Nous avons appris que Wynne avait financé les cours de son auxiliaire au collège, ainsi que les études relatives au métier de secrétaire juridique. On avait appris que ce dernier touchait le salaire minimum et qu'il était extrêmement loyal envers Wynne.
Plus tard, les agents interrogèrent l'auxiliaire de Wynne de nouveau et lui firent part de leurs soupçons. Ce dernier soutint qu'il avait bien rencontré Wynne au bar le jour de l'enlèvement, mais il ajouta quelque chose de nouveau sur son patron. Il déclara que les poursuites judiciaires entre Wynne et la société de photographie avaient débuté quand l'entreprise avait saisi les biens de son patron 7 ans plus tôt et qu'il avait contesté les poursuites pour se venger. Pour s'éviter de payer ses dettes, il avait même tenté de faire banqueroute à 3 reprises. Par un ordre de la cour visant à récupérer l'argent, le marshal avait confisqué plusieurs objets de valeur de Wynne, notamment 1000 actions très bien cotées en bourse. On avait également confisqué sa voiture européenne, un coupé sport que Wynne adorait. De plus, on avait mis son cabinet aux enchères. Le 6 juillet 1988, soit moins de 3 semaines avant la disparition de Madame Aaron, Wynne avait reçu un avis d'éviction. Mais il avait refusé de partir. Selon son auxiliaire, Wynne était furieux. Il était persuadé que la société de photographie avait causé sa ruine. Les agents du FBI se demandaient si l'auxiliaire pouvait être impliqué dans l'enlèvement.
Nous avons fait sortir les dossiers de tous les véhicules enregistrés au nom de l'auxiliaire, des amis et des associés de Wynne, incluant celle de Wynne lui-même.
Agent spécial, Tom Montgomery.
Nous avons alors appris qu'une mini-fourgonnette blanche était au nom de l'auxiliaire juridique. Au cours d'un interrogatoire de cet employé, il nous a dit que Wynne utilisait souvent ce véhicule.
Cette découverte était très prometteuse. Par le bureau d'immatriculation des véhicules, on obtint le nom de la propriétaire précédente. Un agent se rendit chez elle pour l'interroger. Elle dit qu'Alfred Wynne, et non l'auxiliaire juridique, était venu lui acheter le véhicule. Elle avait trouvé son comportement bizarre, car il avait insisté pour que son nom ne figure pas sur le document. La femme avait donc laissé en blanc la case du nom de l'acheteur. La piste était encourageante. Les agents apprirent toutefois que la mini-fourgonnette se trouvait dans un atelier de mécanique le jour de l'enlèvement. C'était une frustration de plus pour les agents aux prises avec une enquête complexe. Après plus d'une semaine, le FBI et le procureur James Tucker n'avaient guère progressé pour retrouver Annie Laurie Aaron.
Une affaire comme celle-là, c'est très difficile parce qu'on ne dispose d'aucun témoin visuel. Personne n'avait assisté à l'enlèvement. Personne ne pouvait donc nous dire que Newton Alfred Wynne, ni aucune des personnes dont les noms figuraient sur la lettre, avait même déjà rencontré Mme Heron.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et Mark Marabella. Il a été réalisé par David Haycox. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assisté de Marie Agassin. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.